Alors, à la demande de l'Association des libraires du Québec, le premier ministre François Legault nous a fait part de sa liste de lectures. Le premier ministre, il faut s'en réjouir, qui aime la lecture et qui essaye de lire au moins 30 minutes par jour. C'est toujours un bon médicament et moi, je suis réjouie que le premier ministre puisse lire. On apprend tellement de choses à travers les livres. Évidemment, ça dépend de certains livres parce que certains ont fait des plaintes. Moi, je suis toujours intéressée de savoir c'est qui le monde qui se plaint. On peut-tu savoir combien il y en a? Est-ce que c'est une personne ou c'est 100 personnes ou 1000 personnes. Toujours est-il que celui qui en fait les frais, ben c'est un des auteurs sur cette liste, Mathieu Bock-Côté, qui est avec nous, sociologue, chroniqueur et qui a publié, entre autres, le livre « L'empire du politiquement correct » qu'aime bien François Legault. Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Alors, dis-moi, le fait de finalement être une persona non grata pour l'Association des libraires du Québec, comment tu réagis par rapport à ça?
Ben, je suis à la fois, je ne suis pas étonné et j'en suis néanmoins désolé. C'est-à-dire que le livre, L'Empire du politiquement correct, était une étude des nouveaux mécanismes de censure qui dominent la vie publique aujourd'hui. Donc, comment on cherche à infréquentabiliser, à rendre infréquentable un intellectuel, un courant de pensée, une idée, un homme politique. Je cherchais à voir comment on distinguait les respectables des infréquentables, les modérés des radicaux, les humanistes des sulfureux, et ainsi de suite. Je cherchais à comprendre comment, dans le débat public contemporain, on cherche souvent à exclure, à disqualifier, à repousser hors de l'espace public ceux qui ne se soumettent pas au petit catéchisme en vigueur. Donc, je cherchais à analyser ça. C'est ce qui vient de se passer. Ce qui est étonnant là-dedans, ça le dit, donc la censure ne me surprend plus, elle me désole chaque fois, mais elle ne me surprend plus, c'est que là, c'est quand même le premier ministre du Québec. Et la raison donnée pour la censurer est double. Donc oui, parce qu'il me mentionne, puis dit du bien de mon livre, puis de mes travaux, j'en suis très heureux, mais aussi parce qu'il ne se rallie pas, c'était dit comme tel, à la théorie du racisme systémique, hein, il critique la théorie du racisme systémique. Et on considère le petit noyau de militants de gauche radicale, woke, qui tourne autour de l'Association des libraires, dit... C'est tellement scandaleux, c'est inacceptable, on ne devrait pas pouvoir, publiquement, à tout le moins être endossé par les libraires si on n'adhère pas à cette théorie. Est-ce qu'on pourrait nous faire la liste des théories autorisées et des théories interdites? Est-ce qu'on peut nous faire la liste des propos qu'on doit obligatoirement répéter et ceux qu'on doit taire à jamais si on veut avoir accès à l'espace public ou aux librairies? Donc, ça me fascine. Puis, il ne faut pas oublier qu'au-delà de ma petite personne, il y avait 9 autres livres qui étaient conseillés sur cette liste et qui sont, balayés aussi à la manière de dommages collatéraux. Moi, je trouve que l'Association des libraires là-dessus s'est aplatie. C'est pas si surprenant, cela dit, hélas, parce qu'on le voit de plus en plus. On l'a vu à l'Université d'Ottawa, on l'a vu avec Radio-Canada et La Petite Vie, on le voit ailleurs. Souvent, quand une institution est contestée par cette petite secte fanatique qui se dit les woke, là, les radicaux, eh bien, l'institution a tendance à s'aplatir.
Les woke, comme dans Réveillez-vous, là, c'est ça?
Oui, ben, qui dit, ben, ceux qui se croient, ben, c'est l'utilise qui est l'étiquette qu'ils utilisent, c'est qu'ils se croient hypersensibles à la condition des minorités, mais qui, en fait, très souvent, prétendent parler au nom des dites minorités qui leur ont jamais donné ce mandat-là, et qui réduisent les rapports sociaux à des pures affaires de victimes, des rapports de pouvoir, hein. Puis toujours avec le grand méchant homme blanc qui est comme le monstre universel qui incarne le mal incarne le mal. Mm-hmm. Eh bien, on a tout ça, et là, les institutions se couchent. Il faut pas oublier, l'Université d'Ottawa s'est couchée, même l'Université de Montréal, on en a moins parlé, mais il y a eu un rapport qui a été produit sur la question de la liberté d'expression sur le campus. Puis le rapport disait, il faut équilibrer entre la liberté d'expression des conférenciers et le droit des différentes minorités, entre guillemets, de pas être heurtées dans leur sensibilité. Mm. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les faits, le blasphème revient. C'est pas juste le blasphème religieux d'hier, c'est le blasphème idéologique. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de blasphémer de leur point de vue, c'est-à-dire contredire ces militants radicaux.
Mais moi, j'ai envie de poser la question aux gens. On a-tu le droit de lire ce qu'on veut au Québec? Et est-ce qu'on a le droit de suggérer certains livres publiquement aussi? Je veux dire, les gens le font régulièrement sur leurs comptes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Là, le premier ministre nous a partagé ses livres favoris, ce qui, bon, c'est très personnel aussi, la lecture. Donc, ça va loin, le fait de censurer d'une certaine façon certains titres. Tu me permettras de prendre l'occasion de redonner nos numéros aux gens. Je vous pose la question. Est-ce que je veux avoir votre réaction par rapport à toute cette saga là sur la liste de lecture du premier ministre? Qu'est-ce que ça René qui dit ben moi ça me fait acheter. Je m'en vais acheter le livre de Mathieu Bock-Côté, je ne l'ai pas lu, ça m'intéresse de le lire. Qu'est-ce qui est si dérangeant là-dedans? Donc, dans la grande région de Montréal, vous allez me joindre en faisant le 514-790-9850. Un peu partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Évidemment, c'est un grand mot, hein, censure. Il faut toujours faire très attention quand on l'utilise, Mathieu Bock-Côté. Mais c'est clair qu'il se passe quelque chose au Québec. C'est vrai que ça pourrait nous amener sur un terrain extrêmement glissant où on n'aurait plus le droit de faire connaître ses opinions. Là, ça peut aller jusque-là. Donc, c'est le contraire de la démocratie. Comment tu vois ça, Mathieu?
Ben moi, je pense qu'on y est sur ce terrain. On n'est pas en train de glisser, on patine. Je donne juste un exemple. Le nombre d'universitaires, parce que c'est un milieu que je connais un peu, ou dans le milieu médiatique, pendant la querelle du racisme systémique, on s'en souvient, au mois de juin, au mois de juillet, le nombre de gens, parce que moi j'avais écrit contre ce concept-là en disant le racisme doit être dénoncé absolument, mais ce concept-là ne tient pas, voilà pourquoi à mon avis, pourquoi on doit critiquer ce concept-là, pourquoi on ne doit pas l'endosser. Le nombre d'universitaires, d'intellectuels, de chroniqueurs, de gens, des citoyens qui m'ont écrit en me disant « Mathieu, merci infiniment de critiquer ça ». Moi, je peux pas me le permettre, c'est pas possible. Donc, j'ai peur pour soi qu'on renouvelle pas mon contrat. J'ai peur d'être stigmatisé dans mon département et qui confesse cela. Donc, l'autocensure existe déjà. L'autocensure existe déjà. Ouais. Puis, faut pas croire que ça fonctionne pas en ce moment. C'est pas des phénomènes marginaux. Il y a des gens qu'on appelle des fois les antifascistes. Hein? Il y a une définition un peu bizarre du fascisme. Pour eux, le fascisme commence au centre-gauche, mais quoi qu'il en soit, dans un livre, une histoire de l'antifascisme, on donne la stratégie pour discréditer un conférencier. C'est intéressant. On dit la première fois qu'on censure M. X, disons. Eh bien, ça fait scandale. La deuxième fois, un peu moins. La troisième, on s'y habitue. Puis la quatrième fois, on prend l'habitude de ne plus inviter M. X parce qu'on veut éviter le scandale.
Mais oui, c'est à cet effet-là, je te le confirme. Parce que moi, j'avoue que maintenant, je vais le faire un aveu publiquement, même si je trouve ça dommage, mais j'avoue que maintenant, j'y pense à deux fois avant d'aborder certains sujets parce que ça ne me tente pas de me faire insulter au quotidien, tu comprends. Là, tu vois, le fait que je t'invite, depuis tout à l'heure, je reçois des insultes. Des gens qui me disent, bon, inviter des racistes à ton émission, t'es la première, mais quand c'est le temps d'inviter des Noirs, tu fais semblant de pas en trouver. Je viens quand même de faire une entrevue avec Régine Laurent. Il y a quelque chose d'extrêmement compliqué, là, puis ça devient difficile à gérer.
C'est le pouvoir de l'injure et de l'insulte. On est devant une mouvance sectaire qui utilise les pires termes racistes, hein, extrême droite, fasciste, xénophobe, transphobe, homophobe, islamophobe, europhobe. C'est très nombreux, les phobies aujourd'hui se multiplient. On nomme phobie tout désaccord avec l'idéologie du moment à certains égards. Bon, ben, la plupart des gens, pour d'excellentes raisons, n'ont pas envie de se faire insulter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, ben, on n'abordera pas ça, puis on ne touchera pas à ça, puis on ne l'invitera pas lui, puis on ne l'invitera pas elle. Le problème, c'est qu'à terme, l'autocensure, ça fait une société de plus en plus étouffante et étouffée. Donc, moi, je pense devant ça, moi, je prêche, mais ça, je le fais pour moi, ensuite, chacun y va selon ses possibilités. Hein. Devant ces petits groupes-là, il faut simplement se tenir, ne pas se coucher. Et ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point, moi, je pense que c'est ce qui explique en partie leur colère, leur radicalité, c'est quand on se couche pas devant eux, ils deviennent fous parce qu'ils ont l'habitude de faire plier.
Mais des fois, c'est lourd d'être tout seul devant l'adversité, hein, j'imagine, Mathieu. Ouais. On a José qui nous appelle. Bonjour, José. Comment vous voyez ça?
Bonjour, Isabelle et Mathieu. Moi, je suis tellement fâchée que j'ai écrit ce matin à la présidente de l'Association des libraires pour lui dire que c'est pas leur rôle de prendre une position politique, c'est leur rôle de faire la promotion de la lecture. Mm-hmm. C'est ce qu'a fait le premier ministre, avec plaisir, puis je suis bien content qu'on ait un premier ministre qui fasse la promotion beaucoup de lecture, la littérature québécoise, mais je suis en maudit. En plus, je prends la peine d'acheter chez les libraires québécois, j'achète beaucoup à chaque année.
Ben oui, puis c'est bien.
J'ai dit, malheureusement, si vous ne changez pas de position, j'ai dit, je vais cesser de vous encourager. Mais j'attends une réponse, j'ai hâte de voir si ça va me répondre.
Ben oui, ouais, vous me le direz si on vous répond. Merci, José.
Mathieu, continue, lâche pas, puis toi aussi, Isabelle, je t'aime beaucoup.
Merci beaucoup, José. On va aller à la pause, on revient, les lignes sont pleines, on va vous donner la parole. Je veux avoir votre réaction par rapport à tout ce dossier-là, cette saga de la liste de lecture du premier ministre. À tout de suite, tout le monde.
Notre langue française s'abîme comme un vieux livre de cuisine. Sur les quais et sous la pluie, au pied de l'Académie. bibliothèque Mazarine.
Qu'est-ce qu'on doit penser de toute cette histoire là, de la liste de lecture du premier ministre François Legault qui a été censurée parce que certains de ses coups de cœur littéraires ne plaisent pas à l'Association des libraires du Québec qui a reçu des plaintes. En fait, ça plaît pas à certaines personnes parce qu'entre autres, on pointe du doigt le livre de notre invité Mathieu Bock-Côté. Il y avait effectivement d'autres livres dont La promesse de l'aube de Romain Gary, Traverser la nuit de Marie Laberge, L'énigme du retour de Dany Laferrière, David Goudreau, qu'on a souvent à l'émission, Ta mort à moi, La bête à sa mère, Coucoum, Michel Jean qui vient de remporter un prix avec ce livre. Bref, il y en a beaucoup. Puis je pense que le premier ministre voulait surtout montrer qu'il lisait du québécois. Hein? Lisez local, pourrait-il nous dire. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette saga?
Mais moi, là, ce que j'en pense, c'est spécial. On est rendu malade au Québec, là. Écoutez, le commentaire de Mathieu, là, en passant, là, faut pas se coucher là-dessus. Faut passer, autrement dit, à l'offensive. Faut pas s'arrêter. Écoutez, là, la seule place en Amérique du Nord, Oprah Winfrey, là, a fait sa liste des livres, elle a toutes les années. Mm-hmm. OK? Puis jamais elle a eu une plainte comme ça. La seule endroit qu'on a une plainte, c'est au Québec. Alors, je sais pas si la COVID nous a frappé fort, là, mm-hmm. mais on commence à avoir un problème. Alors, Mathieu, t'as raison. Faut pas se coucher là-dessus. Faut passer à l'offensive.
Allez-vous lire? Okay? Allez-vous, ça vous donne envie de lire ces livres?
Ben, certainement. Puis ce que M. Legault nous propose, c'est intéressant aussi. Alors, moi, j'ai...
En tout cas, c'est une liste variée, Jean. Ça, c'est une chose est sûre. Et c'est 9 livres sur 10 sont des livres du Québec. Donc, je pense qu'il faut saluer l'effort ici. Merci de votre appel. Claire est avec nous. Bonjour, Claire. Comment vous voyez ça, cette discussion?
Je trouve ça effrayant. Je trouve ça effrayant qu'on n'a plus le droit de dire qu'est-ce que c'est qu'on aime. Et puis, en fait, qu'est-ce que c'est que M. Legault aurait dû faire? Il aurait dû nommer tous les livres qu'il y avait au Québec. À ce moment-là, il n'y aurait pas eu de chialage, là. Lui, il a simplement dit les livres qu'il aimait, qu'il avait lus. Et puis, d'encourager, comme vous dites, la lecture locale. Uh-huh. Alors, pour ça, vraiment. Puis oui, je suis absolument d'accord avec M. Côté. En fait, Bock-Côté, c'est qu'il ne faut pas s'aplatir à travers tout ça. Il faut se mettre, garder debout et droit.
Mm-hmm. Merci, Claire. David, votre opinion là-dessus?
Bonjour.
Bonjour, David.
D'abord, j'aimerais saluer M. Bock-Côté, dont j'ai lu les ouvrages et dont je suis, bon, les balados, là, régulièrement. Je suis franchement tellement désolé de ce qui s'est produit de la part de l'Assaut des libraires du Québec. Cette censure-là, on doit la dénoncer. Moi, je ne peux pas en dire plus parce que dans le cadre de mes fonctions, je dois m'auto-censurer. Malheureusement, je suis dans le domaine de l'enseignement. J'essaie de favoriser la lecture auprès de mes jeunes enfants, j'en ai quelques-uns, ainsi qu'auprès de mes élèves, et il n'y a rien de plus déplorable que ce Fahrenheit 451 sauce.
Ah oui, complètement. C'est un livre, vous savez que Fahrenheit 451, c'est le degré auquel les livres brûlent, hein, à partir duquel les livres brûlent.
Ah. Ouais. C'est un bûcher symbolique.
Voilà,
Faut le dénoncer. Merci de m'avoir écouté.
Ben merci à vous. Merci de votre appel, David. Mathieu, il nous reste une minute et demie à peu près. Bon, les gens veulent beaucoup intervenir là-dessus parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sentent attaqués aussi dans la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux gens là, pour qui la lecture est importante, pour tous ceux qui ne lisent pas aussi?
Bon, là-dessus, je crois que avec la lecture, on n'est jamais seul. Ça, c'est la première chose. On l'a vu pendant le confinement, mais pas seulement. Moi, je suis persuadé qu'on cultive son jardin intérieur, son imaginaire, on cultive son sens civique à travers la lecture. Et ensuite, on doit lire selon ses aspirations pour se contredire soi-même en trouvant des ouvrages qui disent le contraire de ce qu'on pense aussi. Puis je me rappelle juste un mot. Quand je donnais un cours il y a quelques années, puis un étudiant... je le trouvais très intelligent, mais je savais qu'on pensait absolument rien de pareil. J'y avais conseillé des livres en disant, ces livres-là, moi, je les trouve intelligents, mais je me reconnais pas dedans. Vous allez vous reconnaître là-dedans, et je pense que vous allez grandir à travers ça. Je pense qu'on devrait être capable de recommander des livres auxquels on n'adhère pas, mais on en reconnaît la valeur d'exister, la valeur de dire un autre aspect du monde. Puis je pense qu'on peut, à travers tout ça, s'éduquer à la diversité des idées.
Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur, qui a publié, entre autres, L'Empire du politiquement correct. Beaucoup de gens me disent qui vont boycotter des libraires. J'aurais envie de vous dire, ne le faites pas. L'association peut avoir certaines vues sur certains livres, mais surtout, continuez d'encourager votre petit libraire dans votre localité. C'est très important. Achetez local, lisez local. À demain, tout le monde.